voix nue. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Étienne Dao. Ce soir, premier jour du reste de ta vie.
Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chanteur, producteur, interprète et auteur. On aura même peut-être sans doute l'occasion cette semaine d'évoquer aussi vos activités de photographe ou même d'acteur. Mais il sera surtout question de musique et de son importance dans votre vie. Le grand public vous a découvert au début des années 80. Des chansons comme « Tomber pour la France » ou « Week-end à Rome » vous ont fait entendre presque partout en France et même au-delà. Du jeune homme moderne, vous êtes devenu l'une des figures de la chanson et de la musique pop en France. Vous nous recevez chez vous, à Paris, pour cette série d'entretiens. Si ceux qui vous connaissent évoquent souvent votre discrétion ou, je cite, « une douceur tranquille et inflexible qui vous caractérise », l'intervieweur qui se présente devant vous, il s'inquiète un petit peu parce que il faut dire d'emblée que dans votre musique, vous avez soigneusement protégé les choses. Votre premier album paru en 81 s'appelait Mythomane et la première chanson, il ne dira pas. Est-ce que Étienne Dao, ça fait de vous un mensonge qui dit toujours la vérité, comme disait Jean Cocteau?
Dans les mensonges, il y a toujours de la vérité. Mais c'est vrai que cette chanson, après coup, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on écrit en fait. On ne réalise pas du tout que ce qu'on écrit a autant de sens. Et avec le recul, plusieurs années après, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'avais listé tout ce dont je ne voulais pas parler. Et c'est presque amusant, quoi.
Une de vos proches vous comparait aux enfants terribles de Cocteau. Est-ce que ça a été un texte qui a pu être important pour vous ?
Cocteau a été important pour moi. Je me souviens qu'un des premiers livres que j'ai lu, c'était La difficulté d'être, que j'avais adoré. Et puis surtout, j'adorais son cinéma. J'adorais Orphée, le Testament d'Orphée.
Et La Belle et la Bête.
La Belle et la Bête, bien sûr. Et puis ses contributions aussi au film de Melville, Les Enfants Terribles.
Dans les premiers messages que l'on envoie, la question de l'adresse, elle est très importante. Hein. À qui s'adressent les chansons? Et je vous pose la question parce qu'avec vous, le tutoiement, qui n'était pas si fréquent dans la chanson française, dans la musique pop, est devenu très important.
Ah, je m'en rends pas compte.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir dit « tu » plus souvent que ça ne se faisait?
C'est probable, je me suis jamais posé la question en fait. L'écriture c'est quelque chose qui est assez instinctif et automatique. Donc véritablement, tous les textes, il y a bien sûr des textes sur lesquels je reviens, que je peaufine. Si je passe trop de temps d'ailleurs je les jette parce que tout d'un coup ils sont vidés de leur substance. Mais si je laisse les choses se faire, enfin disons que je mets très longtemps à faire très vite... J'emmagasine beaucoup, j'écris pas du tout entre les albums. Et lorsque je suis dans l'état d'esprit d'écrire, dans la disponibilité d'écrire, ça vient assez rapidement. Et je me rends absolument pas compte de ce que je peux écrire, vraiment. Même si c'est un condensé des deux années qui sont consacrées à la gestation, à l'écriture, à la fabrication du disque.
Vous aviez laissé entendre, Étienne Dao, qu'à l'époque de Mythomane, l'album pouvait peut-être être une sorte de lettre fragmentée adressée à une seule personne.
Ah oui. Bon, je l'ai dit par la suite, donc je peux le dire. C'était un album qui était dédié à Élie Medeiros, dont j'étais très fan parce qu'elle était la chanteuse d'un groupe qui s'appelait Stinky Toys. Et c'était un groupe qui était important vraiment parce que je me suis reconnu dans leur musique. Je trouvais que c'était déchirant leur musique. Il y avait quelque chose de décorché complètement, et esthétiquement ça me convenait complètement quoi. Le couple Élie et Jacquenot était tellement phénoménal de classe, de style, et donc je me suis mis dans la tête de les faire venir à Rennes parce que personne voulait les faire jouer à Rennes, donc j'avais tellement envie de les voir que je me suis improvisé organisateur de concert. Donc, n'ayant qu'une pratique de l'affaire.
Et donc, vous êtes payé le concert de votre groupe préféré.
C'est un peu ça, mais je n'avais pas les moyens de me payer un groupe. Donc, j'ai embarqué deux amis à moi, dont Sylvie Coma d'ailleurs, dans cette espèce d'aventure qui nous a coûté notre slip, quoi, puisqu'on a mangé des pâtes pendant 5 ans après.
Je reviens à cette question de l'adresse Étienne Dao. Est-ce que vous écrivez toujours pour quelqu'un?
Oui, vraiment. Oui. Depuis 2 albums, les textes ont changé. J'étais beaucoup jusqu'à un album qui s'appelle L'Invitation, dans le fait de tourner autour de problématiques personnelles qu'on ne règle pas et qui font le terreau de ce qu'on écrit, quoi. On trempe sa plume là-dedans. Et après cet album, tout d'un coup, il y a eu comme une espèce de libération. C'était fini, quoi. Je suis allé au bout d'une passion avec une chanson qui s'appelait L'Adorer, Désadorer l'Adorer, et une chanson qui s'appelle Boulevard des Capucines, que j'ai regretté par la suite d'avoir publié, en fait. C'était trop personnel. Et après cet album, j'ai eu un blanc. Je me suis senti bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la sensation d'avoir écrit sur tous les sujets qui me taraudaient. Et Le Condamné à mort est arrivé, ce projet avec Jeanne Moreau. Ça a été une aubaine, en fait. C'est arrivé vraiment par hasard. Je ne sais pas si le hasard existe vraiment ou si on le provoque. Mais en tout cas, ça m'a permis de me glisser dans la peau de ce tolard qui vit une espèce de passion fulgurante qui se termine par la mort inéluctable. Et depuis, j'écris pas du tout de la même manière. Peut-être que la maturité, enfin, si tant est que j'espère avoir assez mûri, fait qu'on regarde mieux les autres, qu'on les regarde avec plus de bienveillance, plus d'intérêt.
À qui s'adresse ce blitz qui vient de paraître, Étienne Dao?
Ce blitz s'adresse aux autres.
Et qui s'adresse pas à la génération, puisque blitz veut dire la guerre.
Oui.
À cette génération qui n'a pas connu la guerre.
Oui, on peut le penser comme ça. Moi, je l'ai connu étant enfant, j'ai connu cette sensation. Mais pour la plupart des gens que je connais, qui n'ont absolument pas connu la guerre, c'est une fiction. Et c'est vrai que la guerre est toujours présentée comme une fiction dans les news. C'est abstrait. On sait que ça existe, qu'il y a une espèce de chose qui plane, on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai écrit cet album à Londres et le blitz est toujours assez important. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui revient dans la conversation. C'est une sensation qu'ont même les générations bien plus jeunes. Et le mot est très bien. Enfin, l'énergie du mot, c'est pas justement que la guerre éclaire, c'est aussi la lumière. La foudre, c'est une mise en lumière d'une certaine manière.
Sans aller jusqu'à la mythomanie, Étienne Dao, à vos débuts, en tout cas, vous avez laissé écrire des choses inexactes à votre sujet. Je pense notamment au premier article que le journal Le Monde vous avait consacré. C'était une interview menée par l'écrivain Hervé Guibert.
Oui, c'est vrai.
Et qui, à l'époque, écrit que vous êtes né à Paris et non pas à Oran, en 57 au lieu de 56, et que vous faites des études d'anglais. Ce qui n'était pas tout à fait vrai.
Les études d'anglais, oui. Après, non, je suis né...
Vous étiez prof d'anglais, ouais.
Ah oui, mais en fait, c'est-à-dire que, à ma décharge, quand j'ai commencé, on faisait pas les bios sur les artistes. C'était les attachés de presse qui se chargeaient de donner des informations. Et en fait, il y a une bio qui a circulé, enfin, c'était pas vraiment une bio, avec des éléments qui m'ont convenu, parce que je n'avais pas du tout envie de donner des éléments. 56, alors là, je m'en fous, 56, 57, mon âge ne m'a jamais posé un problème. Mais... c'est vrai que j'avais jamais donné d'informations, mais même auprès de mes amis à Rennes, j'avais la sensation, en commençant la musique, d'être vierge de mon histoire et de commencer une vie. J'avais pas du tout l'intention de parler de tout ce qui m'avait semblé assez chaotique avant. Et c'est une pudeur et aussi une manière de m'en sortir, de ne pas avoir à revenir sur des choses sur lesquelles je n'avais pas envie de revenir. Donc j'ai laissé dire les choses. Ouais.
C'était aussi une façon de réécrire votre histoire?
De la laisser réécrire par les autres, en tout cas.
Étienne Dao, vous êtes né donc à Oran en 1956. Dans quelle famille est-ce que vous grandissez? Votre mère est, je crois, d'origine espagnole?
Oui, par sa mère. Et c'est une famille de 5 filles, 5 sœurs, très très unies, très latines, très bruyantes. et aimante et très pudique aussi. Il me reste beaucoup ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de soi et surtout on ne parle pas de ce qui ne va pas. On est très secret, même si on dit des choses et qu'on veut être bruyant et tout ça. Et cette famille était tellement bruyante que la seule façon de se faire entendre, c'était de parler très très bas. Et au bout d'un moment, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et tout le monde s'arrêtait pour m'écouter. Et ça m'est resté, je crois.
Sans doute, oui, dans votre façon de chanter, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve.
Oui, ça, je sais pas. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai chanté comme je parlais, en fait. Il n'y a pas eu un switch comme ça, de me dire tout d'un coup, à partir du moment où je vais chanter, ma voix sera différente. Il y a beaucoup de gens que je rencontre dont la voix parlée et la voix chantée très différente. D'ailleurs, ça m'étonne toujours beaucoup. de voir la différence qu'il peut y avoir entre la voix parlée et chantée. Moi, je sais que dans la mienne, il n'y a pas beaucoup de différence. Je peux plus faire de blagues au téléphone. C'est bien regrettable.
Vous grandissez, Étienne Dao, dans une famille où les hommes sont rares. Votre mère avait 4 sœurs. Vous avez 2 grandes sœurs, Mimi et Fanfan.
Oui.
Qui choisit le prénom d'Étienne pour vous, puisque c'est aussi le prénom de votre père?
Oui, je ne sais pas. C'est un sujet qui n'a jamais été évoqué. Mon père, je pense, qui était très heureux d'avoir son premier garçon et qui a voulu que je prenne son prénom, j'imagine, je ne sais pas.
Parmi ces femmes qui comptent au début, Étienne Dao, il y a aussi votre grand-mère qui, je crois, avait une forme de don d'intuition ou de divination.
Oui, en fait, elle a été aveugle jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est étrange. Elle avait eu un accident domestique, on va dire. Elle avait eu de l'huile bouillante dans les yeux. Et la personne qui s'occupait d'elle avait pensé que pour soigner la brûlure, il fallait mettre du jus de citron dans ses yeux. Et donc, elle a été aveugle jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans. Et elle a épousé mon grand-père, qui avait 20 ans de plus qu'elle, je crois. Et ça a été un couple assez incroyablement uni jusqu'au bout. Plus tard, nous sommes rentrés en France. Ils habitaient tout près, en fait. Vraiment, le quartier très familier pour moi. Ils habitaient Place Blanche.
Puisque nous sommes dans le 18e arrondissement.
Oui, oui. Ils habitaient au-dessus d'un sex shop. D'abord, qui était un cinéma d'horreur, avec il y avait une bouche de Dracula avec des dents comme ça. Et l'entrée était juste à côté, c'était assez effrayant. Et après, c'est devenu un sex shop, non, un peep show, une boîte de strip. Et il y avait comme ils habitaient au premier étage, il y avait des lumières qui clignotaient toute la nuit chez eux.
Pour un écrivain comme Annie Ernaux, par exemple, retrouver la mémoire de la ville et de son enfance par sa propre écriture, c'était passé par un livre qui s'appelait « Retour à Yvetot ». Pour vous, en chanson, Étienne Dao, ce serait peut-être « De bien jolies flammes », une chanson qui évoque Oran, je donne le début, « De bien jolies flammes » éclabousse minuit, et puis vous évoquez l'auteur de vos jours, votre mère, Lucie, mais vous évoquez aussi des souvenirs beaucoup plus inquiétants et lourds.
Oui, c'est un moment où nous avons dû quitter Oran, parce que c'était très très dangereux. Nous habitions au premier étage, et ces bien jolies flammes, c'est les lumières que font les flammes à travers les rideaux et les volets. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui voulaient mettre le feu dans notre appartement et qui voulaient nous brûler. Et je me souviens, comme j'étais tout seul, j'étais le garçon en fait. Et j'ai dit, c'est une chanson qui n'est pas vraiment sortie en fait, qui devait être sur un album qui s'appelle Eden, et au dernier moment... C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'écrit pas seulement pour soi, et on peut réveiller des mémoires chez les autres, et que chez les autres peuvent le vivre d'une manière un peu différente. Donc il faut toujours faire très attention de ne pas évoquer les autres. Et dans cette chanson, j'évoquais ma mère et mes sœurs, et j'évoquais aussi le fait qu'étant enfant et me sentant garçon, je me sentais trop petit pour les défendre, en fait. Et c'était une sensation terrible de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et ma mère était derrière la porte avec un martinet pour nous défendre. Donc il y a un côté tellement dérisoire et touchant, en fait. Et j'avais envie de faire une chanson sur cette histoire, parce que c'était un moment de mon parcours où j'ai eu envie de raconter des choses, de ne plus laisser dire que j'avais un an de moins et que j'étais prof d'anglais.
Vous étiez très jeune, Étienne Dao, mais ce sont des événements forts. Quels souvenirs vous gardez de cette guerre d'Algérie qui vous fera quitter Oran?
Je crois que les enfants s'adaptent à tout et qu'on continue à jouer sous les bombes. Voilà, c'est un quotidien. On se baissait dans la voiture pour pas prendre une balle, on se baissait pour passer sous les fenêtres, pour pas prendre une balle perdue. Il y avait des sirènes toutes les nuits, il y avait quand même un climat d'angoisse. Je sais que ma sœur Fanfan, par exemple, est très traumatisée par tout ça, beaucoup plus que moi. Donc nous nous sommes retrouvés au Cap Falcon, qui est un village de plage, à 25 ou 30 kilomètres d'Oran, où mes grands-parents, qui étaient des petits commerçants, ils avaient au départ un magasin de laine, je crois. Et puis je me souviens surtout qu'il y avait des espèces de grands bocaux avec des parfums de toutes les couleurs, je trouvais ça fascinant. Et ils ont acheté un endroit dans ce village qui s'appelle Cap Falcon. Et c'était un établissement où d'un côté, il y avait une épicerie et de l'autre côté, il y avait un débit de soda et de glace, etc. Et donc, nous sommes partis vivre au Cap Falcon. Tout d'un coup, c'était le rêve, la liberté, vraiment la vraie liberté, quoi. la musique avec ce jukebox qui a été mon premier grand amour. L'école où il y avait 3 élèves, un mec de 17 ans, un autre de 12 et moi qui en avait 5. Autant dire que ma scolarité était un peu en diagonale. Mais comme j'avais tendance à faire des fugues, c'est-à-dire à ne pas rentrer, je partais avec mes copains comme ça, me promener. À 10h, j'étais toujours pas rentré le soir. Donc on m'a mis en pension et je me suis retrouvé en pension à l'âge de 5 ans. Et là, ça a été vraiment un vrai choc.
Ces fugues, vous le faisiez consciemment ou simplement vous vous amusiez et vous ne pensiez pas à revenir?
Non, je pensais pas à revenir. Je pensais pas à revenir. Voilà, c'était la liberté, quoi.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce jukebox à Cap Falcon, Étienne Dao?
Il y avait à peu près tous les tubes de l'époque, les yéyé, puis je sais pas, il y avait les Beach Boys. Enfin, si on me demande d'évoquer ces moments, ce serait le premier album des Beach Boys, qui était un album que mon père avait d'ailleurs, qui s'appelle Surfing Safari, je crois.
C'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on retrouvera après, qui va nourrir vos influences tout le long. Étienne Dao, vous n'êtes jamais revenu ensuite à Oran ou à Cap Falcon?
Non, jamais. Il y a quelques années, il y a un de mes amis qui travaille beaucoup avec l'Algérie, qui a fait un tour au Cap Falcon pour me faire une surprise et pour prendre des photos. Et en fait, comme il ne trouvait pas l'endroit, j'étais petit hein, quand même, hein, il m'a appelé, j'étais au téléphone avec lui. Bon, pour moi, c'était surréaliste, en fait, que quelqu'un puisse être au Cap Falcon. C'est comme la planète Mars. Ça s'est tellement logé dans mon imaginaire que ça n'existe plus. Ça n'est pas réel. Et je l'ai guidé. Je l'ai guidé au téléphone. C'est-à-dire, j'ai dit là, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, là, c'est là. Et c'était fou parce que vraiment, je me souvenais exactement de tout. Tout est resté intact dans ma mémoire. C'est resté comme un genre d'Éden, en fait. Et quand j'avais fait cet album, on avait fait c'était le premier jeu vraiment qu'on pouvait inclure dans un disque, un jeu. Le principe du jeu était qu'un enfant, tout d'un coup, avait un parcours initiatique pour devenir un jeune homme, puis un homme, et ça se passait vraiment dans le Cap Falcon, qu'on avait entièrement reconstitué. Et c'est drôle parce que j'ai passé une soirée avec Yves Saint Laurent dans les années 80, et il y avait une soirée complètement surréaliste où Bettina Graziani, la mannequin, et elle avait organisé un dîner dans sa petite cuisine où il y avait Yves Saint-Laurent, François Sagan, le prince de Rédé, Dany et moi. C'était un peu irréel, quoi. Et les parents d'Yves Saint-Laurent avaient une maison à Cap Falcon. Ils sont de Cap Falcon. Et donc, je le savais et je lui ai parlé de cet endroit. Et il était aussi halluciné parce que pour lui, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et on a dû avoir une conversation tous les deux qui devait être lunaire pour les autres. Parce qu'on avait cette même sensation d'irréalité, de paradis perdu.
Il y a un autre drame plus intime que celui de la guerre d'Algérie dans votre enfance, ça va être le départ de votre père. Vous aviez, je crois, 4 ou 5 ans.
Oui, oui.
Quel souvenir vous gardez de ce départ? Il vous fait ses adieux?
Oui, oui. En fait, on ne savait pas du tout que c'était la dernière fois. Il est arrivé en jeep avec des amis à lui. Et on en parle maintenant, donc j'ai un souvenir assez, assez précis. Mais aucun mot n'a été échangé. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort, il est reparti. C'était sur une terrasse qui était au premier étage. Ils sont partis en sautant du premier étage de la terrasse avec ses amis. Et on ne les a jamais revus.
Ses amis étaient militaires comme lui?
Oui, oui.
Et ensuite, pas de traces jusqu'à, vous la mentionniez tout à l'heure, vous avez écrit une chanson, Boulevard des Capucines,
oui,
qui est très singulière parce que vous parlez de retrouvailles manquées, mais du point de vue de votre père. Mm-hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lui qui a essayé de revenir vous voir un soir à l'Olympia.
Oui, oh là là, Mathieu, vous me faites dire des choses. En fait, ma sœur a cherché à le revoir. Et donc, je l'ai revu à Paris au tout début où j'ai commencé à chanter. Et je me suis retrouvé chez lui. Il avait une nouvelle vie avec des nouveaux enfants et une nouvelle femme. D'ailleurs, dans le même ordre. C'était très étrange et il ne pouvait pas nous faire passer pour ses enfants. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été un genre de deuxième rejet, d'une certaine manière, de ne pas être reconnu comme un enfant, mais comme un cousin, comme quelqu'un de la famille. Et je n'ai pas souhaité le revoir. on pourra le comprendre. Et il est venu à l'Olympia quand j'ai commencé à être très connu en 86. Tout d'un coup, il y a eu une espèce de flambée comme ça.
On appelait la Daomania.
Voilà. Et on m'a annoncé que mon père était là avec sa famille et qu'il voulait des places, voilà, pour rentrer. Et on m'a dit ça juste avant que je monte sur scène. Et je savais que ma mère était dans la salle, ils s'étaient pas revus, donc ça m'a beaucoup, beaucoup tourmenté. Et donc finalement, on les a installés, etc. Ma seule angoisse, c'était que mon père et ma mère se voient, se retrouvent. C'était quand même un choc. Je voulais un peu protéger ma mère. Et en fait, ensuite, il a voulu venir me voir dans les loges. Je n'ai pas voulu le voir. Pour moi, c'était trop tard. Je m'étais construit sans lui. On peut se construire sans les gens qui... Enfin, sans les êtres même qui sont supposés être les plus importants pour vous. On se construit différemment.
Après cet épisode, là on est en 1986,
ouais.
Il faudra presque 20 ans pour que vous écriviez cette fameuse chanson mm-hmm. que vous regrettez, Boulevard des Capucines. Mm-hmm. Mais bon, elle est sortie. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cette chanson, Étienne Daho?
Alors entre-temps, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, il est mort dans les années 90. Ce qui a été un choc à retardement. Ma mère m'avait dit, va à l'enterrement. Ma mère est quelqu'un de très pieux, et donc qui, évidemment, est quelqu'un qui sait ce que c'est que le pardon, de pardonner. Et donc, elle n'a jamais, absolument jamais, dit quoi que ce soit de l'abandon de mon père, parce qu'en fait, il est parti et nous a laissé quand même en pleine guerre, sans nouvelles. Enfin, c'est quand même d'une brutalité incroyable.
Vous n'en parliez jamais à la maison ?
Non. D'abord, on ne parle pas... Ce qui explique peut-être que voilà que j'ai une réputation de mec si secret, mais je pense que voilà ça reste des choses comme ça qu'on ne raconte pas. Et donc je suis allé à son enterrement et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que des gens que je connaissais pas et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et j'étais allé là-bas en taxi, il y avait un taxi qui m'attendait, c'était en banlieue parisienne. Et quand je suis revenu à Paris en taxi, on est tombé en panne. Le taxi sur l'autoroute. Et je me suis dit, voilà, c'est la justice divine. Je suis puni parce que je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Et pour en revenir à cette chanson, en fait, il a écrit des lettres que je n'avais jamais reçues et que ma sœur Fanfan m'a transmis. Et quand j'ai lu ces lettres, j'étais très... Du temps s'était passé. J'avais fait un travail qui m'avait permis de prendre beaucoup, beaucoup de distance avec tout ça et de ne pas être... dans un état d'esprit de voilà de vindicte et voilà d'une forme de maturité qui est que voilà on a des parents, ils ont 20 ans, 25 ans, ils se débrouillent avec leurs problèmes et que voilà, on peut pas attendre d'eux qu'ils soient fabuleux. Et j'ai pris pas mal de distance par rapport aux deux. On peut pas faire deux personnes plus dissemblables. J'avais un père qui était un hédoniste, un jouisseur, qui s'était retrouvé à la tête d'une fortune à la mort de ses parents. À 20 ans, il était très très riche. Et il a tout dilapidé. Et ma mère, qui était une femme, qui voulait rester avec ses enfants, qui ne sortait pas et tout. Donc forcément, au bout d'un moment, on se demande comment ces deux-là ont pu faire des enfants.
Étienne Daho, vous quitterez l'Algérie pour la France à l'âge de 7 ou 8 ans. Vous êtes rapatrié en 64. Vous allez d'abord arriver à Reims, chez un oncle. Quelle vie est-ce que vous découvrez en arrivant en France ?
Alors, c'était très compliqué pour rentrer, parce que pour rentrer, il fallait que j'aie l'autorisation paternelle. Et donc, nous sommes restés coincés à Oran pendant de très longs mois. Et je suis parti un peu en cachette avec une de mes tantes qui m'a amené à Reims. Et à Reims, j'ai fait un bout de ma scolarité pendant quelques mois. Et ensuite, mon oncle a été muté à Rennes et on est parti à Rennes. Mais c'était la découverte de la France. C'était pas mal de choses très différentes. C'est la découverte. C'était un prolongement de la culture parce qu'en fait, l'Algérie était la France et donc c'était les mêmes choses en fait. C'était les mêmes chansons, c'était les mêmes radios. Enfin bon, je parle de ça parce que c'était la seule chose qui était les choses la plus importante pour moi. C'était la musique déjà et les chansons. Et donc j'ai découvert la télé, donc les feuilletons. Et puis, les émissions où je pouvais voir enfin toutes les idoles dont j'écoutais les chansons, quoi. Et notamment Françoise Hardy, dont c'était une révélation. C'était carrément une déesse tellement jolie et mystérieuse.
Françoise Hardy, vous avez souvent été présentée comme presque son fan numéro un. On comprend qu'elle compte beaucoup dans votre enfance, mais vous allez des années plus tard...
Elle a dit qu'elle était devenue fan de son fan. Hein.
C'est partagé. Mais vous allez chercher à la rencontrer, et c'est un peu inattendu, parce que souvent les gens qu'on admire, on craint beaucoup de les rencontrer.
Certains, oui. Je crois que quand on a des affinités avec des musiques, je pense que finalement, on est très très proches. Il y a des zones d'affinité, d'évidence. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés sont devenus des amis, en fait. Ou sont devenus des relations de proximité, en fait. Françoise Hardy, ça a été assez rapide. Et il y a eu vraiment une sensation de familiarité, véritablement. Je me souviens avoir passé des Noëls avec Jacques, Françoise et Thomas, tout petit. Donc, il y a eu des moments comme ça, vraiment, de ce genre de proximité, véritablement.
J'en reviens à Reims, Étienne Dao, puis vous arrivez quelques mois après à Rennes. Quelle image est-ce que vous gardez de cette ville à laquelle on va vous associer? Est-ce que c'est une ville que vous aimez tout de suite?
D'abord, le choc de Reims a été... d'abord, j'étais dans une école extrêmement stricte. Et les enfants sont terribles avec les gens qui sont un peu différents. J'étais déjà un peu martien de par ma trajectoire. Et puis, on n'est pas avec papa et maman. C'est louche. Enfin, vraiment, c'était compliqué pour moi de m'intégrer. Et je me suis dit que la seule manière de se faire respecter, c'était d'atteindre les premières places. Et j'ai travaillé, moi qui savais à peine compter, je sais toujours pas compter, hein, mais je me suis défoncé pour être parmi les trois premiers. C'était vraiment un objectif pour moi, de prendre ma place. Et j'y suis arrivé. Et on m'a plus jamais fait chier.
Et la ville de Rennes, quelle première impression vous en gardez, Étienne Dao?
C'était très bizarre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bitume sur les trottoirs, il n'y avait que des graviers. C'était une ville très bizarre, très froide, très grise. Il a fallu que je sois adolescent, véritablement, pour que je commence vraiment à m'amuser, à voir des amis. Mais jusqu'à l'âge de 15 ans, à peu près, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Je me sentais vraiment isolé. J'avais vraiment pour meilleur ami la musique, exclusivement.
À cette époque-là, Étienne Dao, est-ce que vous commenciez déjà à jouer ou à vouloir apprendre un instrument?
Non, il y avait une question de moyens aussi. Enfin, ma mère s'est donc retrouvée à Rennes avec très peu de moyens. Et ça aurait été un luxe absolument incroyable que de pouvoir avoir des cours de quelconque instrument. Donc, je me bornais à écouter la musique des autres. Mais je l'écoutais avec tellement d'intensité, de passion, qu'elle est rentrée en moi, quoi, vraiment par toutes mes cellules. La lecture et la musique ont été vraiment des lifesavers, quoi, véritablement.
On en restera là pour aujourd'hui, Étienne Dao. On vous retrouve demain soir. À demain.
À demain.
De bien jolies flammes éclaboussent minuit. Orange indigo dans tes yeux cernés, l'incendie. C'est le triomphe du cerveau rétréci sur les trottoirs fous de la haine, l'ennemi.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Étienne Dao.
Les sirènes hurlent.
À voix nue. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son Martin Guénard. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
De bien jolies flammes assombrit ce minuit. Ta plainte restera muette cette nuit. Mon oriflamme, ma vaillante chérie, mes graines affolées, nerveuses et trahies. Les sirènes hurlent, les balles sifflent à l'infini. Pour nous défendre, je suis bien trop petit. flamme, mon astre de minuit, lumière Lucie, auteur de mes jours, de ma nuit.